Bonjour à tous. Impossible d'évoquer la guerre d'Algérie et l'histoire de l'Algérie sans vous. Bienvenue, Benjamin Stora, et bonjour. Cet
Bonjour.
après-midi, au nom de la République, Emmanuel Macron va commémorer le drame ou la tragédie du 17 octobre 1961 à Paris. Une date noire à la fois pour les victimes et pour tous les protagonistes. Alors, il faut rappeler que ce jour-là, à Paris, la Fédération française du FLN avait donné l'ordre aux Algériens de l'Île-de-France de manifester dans le cœur de Paris. Et l'ambiance était plus qu'électrique, elle était au drame.
La manifestation était pacifique. C'était une manifestation décidée pour protester contre le couvre-feu imposé par Maurice Papon, interdisant aux Algériens de sortir de là où ils habitaient, essentiellement des bidonvilles, parce que dans les années 60, énormément d'Algériens vivaient dans des conditions insalubres, dans des grands
Ils
bidonvilles.
avaient été appelés pour travailler
Voilà,
en
c'est
France, etc. Mais en septembre, à Paris,
la plupart étaient des ouvriers, bien entendu.
à Paris, on avait connu une soixantaine d'attentats FLN et la mort de quelques policiers.
Oui, alors l'atmosphère, effectivement, c'est l'atmosphère générale, dans la longue durée, bien sûr, qui était celle d'une guerre. Il y a eu effectivement des 5 policiers qui avaient été tués auparavant. Il y avait eu effectivement des affrontements entre Algériens, qui étaient très importants aussi.
Ils étaient
Donc
entretués.
il y avait par conséquent une atmosphère très très dure de violence, de guerre, et puis de contrôle incessant au faciès qui était exercé à l'égard des Algériens. Dans ces grands bidonvilles de Nanterre, Asnières, Gennevilliers, etc., de sorte qu'il y avait une très grande tension qui existait, c'est incontestable, et il y avait naturellement aussi l'ambiance politique générale, la préparation des accords d'Évian, car nous sommes seulement à quelques semaines, disons, des accords
Ils
d'Évian.
vont avoir lieu dans 5 mois après. Mais il s'agit donc de faire pression pour ou reprendre ou accélérer la négociation secrète entre Algériens et Français à ce moment-là.
Il y a d'un côté, effectivement, du côté du GPRA, du FLN, la volonté de faire pression, d'exister dans le cadre de ces négociations. Et de l'autre côté, du côté du pouvoir français, la volonté, bien sûr, qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public. Il y a la volonté d'éviter, bien entendu, que, au moment où ces négociations commencent à arriver, eh bien, des troubles graves. Il ne faut pas oublier que le général de Gaulle, quelques jours seulement avant le 17 octobre, a échappé à un attentat à Pont-sur-Seine. Il
Donc
a failli
on voit
mourir.
l'atmosphère. Et en même temps, l'ordre est donc donné au préfet de police Maurice Papon de maintenir l'ordre et surtout d'éviter que les manifestations arrivent au cœur de la capitale. Mais le FLN, vous dites, avait organisé une manifestation dite pacifique, mais il a intitulé sa manif La bataille de Paris, la bataille.
Là, c'est le titre, disons, d'un livre qui est paru après,
Oui, de
mais
Jean-Luc Einaudi.
de Jean-Luc Einaudi,
Un
bien
livre
entendu, mais
fondateur et courageux à l'époque.
c'est en fait une organisation voulue par le FLN pour rendre les Algériens moins invisibles, car ils étaient les grands invisibles de cette situation, dans la mesure où il y avait eu très peu de manifestations, pratiquement pas de manifestations d'Algériens à Paris. Il y en avait une le 9 mars 1956 contre les pouvoirs spéciaux qu'avait voté le gouvernement socialiste de l'époque, et les Algériens avaient manifesté,
Oui,
avaient
mais ils
été très
disent bien
réprimés.
la bataille de Paris le jour de la manif. Ils
Bah, la
l'appellent
bataille.
comme ça.
C'est une bataille politique, bien entendu, pour affirmer la possibilité, disons, pour les Algériens de peser dans les négociations qui s'ouvrent avec le général de Gaulle.
Une seule fois, Maurice Papon s'est expliqué. En 1991, il avait accepté de répondre à mes questions qui étaient alors précises parce que j'avais lu le livre de Jean-Luc Einaudi. Et voici quelques extraits de la version du préfet de police Maurice Papon. C'est un document, et donc il faut l'écouter.
C'est un moment de ce que vous avez vous-même appelé la bataille de Paris, n'est-ce pas?
J'ai repris la formule du FLN qui a appelé les engagements qui ont lieu ce soir-là la bataille de Paris, avec d'autres épisodes d'ailleurs. Et comme je vous l'indiquerai tout à l'heure, ceci était conforme à la stratégie globale arrêtée par le FLN et la Fédération de France avait reçu pour cette soirée du 17 octobre des instructions spéciales de Tunis.
Oui, mais la Fédération française, dans tous les documents du FLN, dit qu'elle avait prévu une manifestation pacifique et non violente.
Eh bien, malheureusement, elle n'était pas pacifique et elle a été violente. Je vous le lis, parce que je ne veux pas inventer. Toute abstention à la participation sera considérée comme un manquement au devoir et sera l'objet de très graves sanctions. Il y a des petits points. Ceux qui resteraient dans les chambres seront abattus. Pour moi, ça évoque un souvenir dramatique. Souvenir dramatique parce que je me souviens qu'à deux ou trois reprises, lorsque j'étais dans la salle de commandement de la préfecture de police, je ne cache pas, je confesse avec honnêteté que j'ai été pris par l'angoisse, car nous avons failli être submergés. La stratégie du FLN, c'était une stratégie militaire d'ailleurs, c'était de faire monter les enchères pour qu'à ces négociations qui étaient effectivement annoncées, qu'ils puissent jouer à une carte plus haute.
Donc pour vous, c'était une phase de la guerre?
Ah mais nous étions en guerre.
Vous avez donné carte blanche aux forces de l'ordre?
Non, absolument pas carte blanche. Et la preuve, nous avons mésestimé, dans le fond, et là c'est peut-être ma responsabilité, nous avons mésestimé l'entreprise belliqueuse du FLN dans cette nuit-là.
Ce que l'on raconte, d'après des témoins, qu'il y a eu des violences terribles dans la cour même de la préfecture de police.
Alors,
oui ça, ou non, il y en a eu?
Ça, c'est un chapitre que je connais bien. Il y a eu effectivement des énervements, et Dieu sait si c'était sinon excusable, du moins compréhensible. Et lorsqu'on m'a signalé qu'il y avait des brutalités dans la cour du 19 août, je suis descendu de la salle de commandement moi-même pour remettre de l'ordre, pour rappeler à l'ordre, pour réameuter les cadres, et j'ai même pris des sanctions contre les brutalités.
Donc, Maurice Pavon reconnaît lui-même la colère des policiers, des premières violences et des brutalités.
Oui, il le reconnaît, il l'admet, bien entendu. Il faut signaler quand même, parce qu'il dit que la manifestation côté FLN n'était pas pacifique, il faut savoir que, à ma connaissance, cette nuit-là, il n'y a pas eu de policiers tués. Je veux dire, il n'y en a pas. Par contre, là, tout de suite après, il y a un bilan de 3 morts du côté algérien, puis ensuite, une semaine après, 6 morts et 138 blessés hein, qui sont donnés. Et ajoutons les chiffres officiels, toujours, hein, de cette nuit-là, qui seront revus par la suite, des arrestations, on le sait maintenant, de 14 000 Algériens qui ont été arrêtés. Ce qui signifie, bien entendu, la mise en place d'une logistique considérable pour la manifestation. On ne peut pas arrêter 14 000 personnes en une nuit si ne sont pas organisés les bus, les transports, les camions,
et
etc.
Et à l'époque, il y a eu des censures, des mensonges sur la vérité historique. On sait maintenant qu'il y a eu même, par noyade, un certain nombre d'Algériens, même 150, 200, d'après ce qu'on dit.
Alors vous savez, il y a un rapport qui a été établi à la demande de Jean-Pierre Chevènement en 1998, fait par le conseiller Mandelkern. Ce rapport, donc, Mandelkern était un ami d'ailleurs de Jean-Pierre Chevènement, qui a établi le fait, formellement, donc, ce rapport est diffusé, hein, officiel par la documentation française, qu'entre le 17 octobre 1961 et le 31 octobre, 88 corps d'Algériens de mort violente ont été déposés à l'Institut médico-légal de Paris. C'est un chiffre officiel dans le rapport Mandelkern.
Qu'on a connu beaucoup plus tard.
Qu'on a connu en 1990.
Mais à l'époque, les syndicats de police, avec la gauche en tête dans les syndicats de police, n'avaient pas protesté après les manifs et contre le préfet de police. Ça, il faut le signaler.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, et bien entendu, il y a eu très peu de protestations hein, qui sont venues. Il y a quand même des policiers courageux hein, qui ont refusé quand même ce qui s'était passé cette nuit terrible. Du côté des partis politiques et des syndicats, à ma connaissance, au lendemain, il n'y a que le PSU, je crois, avec Michel Rocard qui ont manifesté, mais pas la gauche. Même si plus tard, Gaston Defferre a déposé une demande de commission parlementaire.
En 1991, devant moi, Maurice Pavon reconnaît aussi les reproches qui lui sont adressés.
Il m'a été reproché d'avoir été un peu débordé. Et c'est vrai qu'au Grand Boulevard notamment, partout ailleurs on a eu la maîtrise, j'ai pu être débordé.
Est-ce qu'il est vrai qu'après, le général de Gaulle vous a fait des remontrances?
Le général de Gaulle m'a dit, vous avez failli être débordé. C'est un peu vrai.
Vous avez la conscience tranquille, M. Pavon?
Tout à fait.
L'histoire le dira.
L'histoire le dira, mais je sais que moi, je mourrai la tête droite. Convaincu d'avoir fait mon devoir envers ma patrie et envers l'État que j'ai servi toute ma vie.
Ça, c'était la version de Maurice Pavon.
C'est un document quand même très important. C'est un document exceptionnel parce qu'il reconnaît que le général de Gaulle lui a fait des remontrances en lui expliquant qu'ils avaient été débordés.
Ce qui et lui-même reconnaît qu'il a été débordé.
Et lui-même reconnaît qu'il a été débordé, qu'il n'a pas été suffisamment capable de tenir en main sa hiérarchie policière et les policiers tout court. Et là, effectivement, c'est un aveu qui a été fait en 1991, qui est très intéressant et qui prouve aussi, bien entendu, que le général de Gaulle n'a jamais donné de consigne.
Il n'y avait pas d'ordre écrit du général de Gaulle?
Non, pas à ma connaissance. Et vous comprenez, le général de Gaulle n'a jamais eu l'intention, même si, naturellement, il a fait des recommandations de fermeté, de tirer à balles réelles sur des manifestants.
Alors, aujourd'hui, c'est pas possible. Le président de la République a choisi un lieu symbolique pour s'exprimer, le pont de Beuzon. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Le pont de Bosan, vous savez, c'est très symptomatique de ce qu'était la situation sociale de ces ouvriers algériens, puisqu'en face, il y a les grands bidonvilles, le grand bidonville de Nanterre, tout près de l'université qui serait construite après, d'ailleurs. Et c'est de là, c'est là qu'il y a eu beaucoup de répressions, beaucoup d'arrestations. Les Algériens paniqués, d'ailleurs, se sont jetés à l'eau. Certains ne savaient pas nager, ont été noyés. Donc il y a eu effectivement sur ce pont, comme sur d'autres ponts, des
répressions
très violentes.
Donc c'est symbolique, les ponts et celui-ci. Le président de la République, on le sait, il veut réconcilier les mémoires sur la guerre d'Algérie. Il fait plusieurs gestes d'apaisement qui sont restés sans réponse, ça il faut le dire. Et il attend de vous, l'auteur du rapport classique de Benjamin Stora, des recommandations. Qu'est-ce que vous lui faites pour aujourd'hui ?
Moi, ce que j'ai préconisé dans ce rapport, d'ailleurs, c'est ce rapport qui contient 22 préconisations. Et par parenthèse, d'ailleurs, on a plus avancé sur le chantier mémoriel en quelques mois qu'en 60 ans. Par parenthèse, parce que je sais que beaucoup pensaient qu'il n'y aurait rien, qu'il ne
serait
pas rien. Sur aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut que la France reconnaisse cette tragédie comme une tragédie inexcusable, dans le fond, bien entendu, comme une sorte de crime qui a été décidé, bien entendu. Et je crois qu'il faut regarder en face cette réalité.
Qu'est-ce que ça veut dire, un crime ?
Un crime, c'est le fait que vous avez quand même des dizaines et des dizaines d'Algériens qui ont été tués.
Non, mais c'est la responsabilité de l'État ou de l'administration ?
Il y a une responsabilité.
Ou des deux ?
Il y a une responsabilité de l'État sous l'autorité de Maurice Papon. Car c'est, dans le fond, l'ordre, disons, l'application de l'ordre qui a été mise en œuvre, disons, dans cette nuit tragique, a été sous la conduite du préfet de police
vous
de Paris.
Vous dites dans Libération ce matin un crime d'État.
Oui, parce que, encore une fois...
Vous le dites là.
Quand on dit crime d'État, c'est aussi la possibilité qu'on a d'identifier qui a décidé cela. Moi, je crois que la mise en pratique des la recommandation de fermeté, il le dit lui-même dans votre document qui est très important, il le dit lui-même, il n'a pas été en mesure de calmer ses troupes.
Très bien, mais si c'est crime d'État, est-ce qu'il faut juger ?
Il n'y a plus de jugement, je veux dire de
60 ans après, il n'y a plus de jugement.
Il n'y a plus de jugement parce que la France a voté plusieurs lois d'amnistie.
Et alors, mais pourquoi les Algériens ne font rien ? Ils n'auraient aucune responsabilité ? Et c'est vrai que vous avez dit qu'il y a une sorte de rente mémorielle, parce qu'il n'y a pas de réciprocité de la part des dirigeants algériens, dont la plupart continuent à vivre comme s'ils avaient été les auteurs ou les participants à une révolution, et souvent, ils n'y ont pas participé. On peut attendre la réciprocité.
Mais quelle réciprocité ?
Qui ne vient pas.
Par rapport à cet événement
ou alors qu'ils ouvrent les archives, comme la France le fait, il faudra qu'elle fasse encore des dérogations, mais les archives des Algériens, on ne peut pas les ouvrir. C'est un flic qui est depuis 20 ans le responsable des archives algériennes. Donc, est-ce que vous leur demandez de les ouvrir ?
Ce n'est pas simplement moi qui demande de rouvrir les archives algériennes. Il y a une mobilisation en Algérie des historiens algériens qui ont signé une pétition, une vingtaine d'historiens algériens qui demandent l'ouverture des archives algériennes.
Ouais, il faut dire aussi qu'au passage... Bertrand Delanoë, quand il était maire de Paris, avait scellé une plaque sur le pont Saint-Michel. Les présidents de la République avaient fait quelques pas, mais on a envie de vous dire jusqu'à quand la France va faire son mea culpa. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de masochisme chez les Français ?
Vous savez, la question de la repentance, du mea culpa, enfin, vous savez, c'est tous ces mots qui sont utilisés, personne ne les demande véritablement. Ce qui existe dans la nouvelle société française portée par la jeunesse notamment, c'est un exigence de vérité.
Donc il n'y a pas d'excuse. Pas de pardon ou de demande de pardon,
vous savez,
et pas de repentance.
Vous savez, Jacques Chirac a prononcé un discours très célèbre au Veldiv. Il n'y a pas le mot excuse ni le mot repentance, mais tout le monde a retenu le discours. Donc ce n'est pas un seul discours d'excuse ou de repentance qui réglera une blessure mémorielle profonde. C'est un chantier qui s'ouvre. Le président de la République a décidé de mener cette bataille mémorielle de manière méthodique et organisée. Il y a eu, comme vous le savez, Audin, Boumengel, le pardon au Harki.
Et vous attendez que c'est l'après-midi, il le dit sur le pont de Bézan. Une remarque, le chef de la Fédération de France du FLN qui a déclenché cette manifestation du 17 octobre, eh bien, il a choisi de vivre en France. Il vit peut-être à Paris, même s'il est très âgé. Est-ce qu'il est citoyen français aujourd'hui ?
Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Non, ça, j'avoue que c'est une question, je ne sais pas.
Merci. En tout cas, la vérité sur l'histoire des guerres d'Algérie et les périodes des vraies fraternités, c'est vous. Et vous l'écrivez dans un livre qui a déjà un grand succès et en bande dessinée. Merci d'être venu avec nous. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais voilà pour ce matin. À bientôt.
Merci Jean-Pierre Alcabache et merci à vous Benjamin Stora. Excellent samedi à tous. On se retrouve demain, sans faute, en direct dès 7h dans la matinale week-end.